5. Alors, il y a 44 versets dans ce chapitre. Je vous invite à le lire à la maison. On ne va pas lire la totalité maintenant. Et voilà, pour illustrer, alors le titre que je donnerai à ce message, c'est « Quand le fou nous rend fou ». Il y a quelques années, je me souviens d'un très cher frère dans le Seigneur qui était animateur, et à un moment donné, il pétait un câble. Et quand il pétait un câble, il criait sur tout ce qui passait devant lui, et puis il disait « Oh les gars, vous me rendez fou !» Bon, ça passait bien quand il y avait des garçons, mais quand il y a des filles aussi, ils disaient la même chose. « Oh les gars, vous me rendez fou !» Et donc les filles l'interpellaient, mais on n'est pas des gars, on est des filles. Mais en fait, on voyait qu'il était plus maître de lui. Hein. Donc, je ne sais pas si ça vous arrive, des fois, vous arrivez à un point où, voilà, quelqu'un vous a mis dans une situation où on n'arrive plus à gérer. Ah, je vois qu'il y a peu de... Ouais, on est d'accord, hein. Donc je suis tout seul, merci. Voilà, donc je m'adresse à ma famille ce matin. Vous pouvez vous saluer à l'extérieur, mais vous êtes aussi invité à rester. Alors oui, je crois qu'on est quand même un peu tous concernés par des fois des limites que nous arrivons à dépasser. Et voilà, mes enfants se reconnaîtront leur papa parfois. Alors, on va lire les 13 premiers versets, puis on aura un suivi de cette histoire. Et au verset 1, il est écrit « Samuel, donc le prophète, mourut. » Et tout Israël se rassembla pour ses funérailles. On l'ensevelit dans sa maison à Rama, et ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Mahon un homme qui avait ses activités à Carmel. C'était un homme considérable, qui avait 3000 moutons et 1000 chèvres. Or, il se trouvait à Carmel pour la tente de ses moutons. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et fort belle, mais l'homme était dur et mauvais dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses moutons. Alors il envoya vers lui 10 jeunes gens, auxquels il dit « Montez à Carmel et vous irez chez Nabal et vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, que la paix soit avec toi, la paix avec ta maison et la paix avec tout ce qui t'appartient. À présent, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous et nous n'avons rien fait de vil ou de mal. » Et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps où ils ont été à Carmel. Demande cela à tes jeunes gens et ils le déclareront. Que mes jeunes gens obtiennent donc ta faveur. Et puis David ajoute, puisque nous venons pour un jour de fête, donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce que tu as résolu, ce que tu as sous la main. Lorsque les jeunes gens donc de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes les paroles au nom de David. Puis, ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David ? Qui est le fils d'Isaïe ? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'évadent de chez leur maître. Moi, je prendrai donc de mon pain, de mon eau et de la viande que j'ai débité pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens dont je ne sais même pas d'où ils sont. » Les jeunes gens, donc de David, rebroussèrent chemin et ils s'en retournèrent à leur arrivée. Ils rapportèrent toutes ces paroles à David. Alors là, David dit à ses hommes, « Que chacun de vous mette son épée à la ceinture. » Et ils mirent chacun leur épée à la ceinture. Et David mit son épée et environ 400 hommes montèrent à la suite. Il en resta 200 près des bagages. Seigneur, nous voulons nous laisser conduire par ta parole ce matin, afin que nous puissions véritablement être nourris par ce Dieu de l'espérance, ce Dieu vivant, ce Dieu présent. Merci Seigneur, parce que tu nous as donné ce qu'il y avait de plus cher, ton Fils, ton Esprit, ta parole. Donne à nos cœurs de le recevoir comme un cadeau de ta part. Amen. Il y avait un homme qui s'appelait Nabal. Ah, ce Nabal, un homme rustre que vous connaissez là-dedans, insensé, riche propriétaire de plusieurs milliers de têtes. Il résidait donc dans la ville de Mahon et c'était dans cette contrée-là, au village de Carmel, que cet homme vivait. Alors il est dit qu'il était le descendant d'un illustre héros, Caleb, qui a été aussi choisi par Dieu, homme de foi, qui a réussi avec Josué, c'est pas rien quand même, hein, à convaincre le peuple de prendre possession de Canaan. Mais le peuple d'Israël n'a pas suivi, malheureusement. Mais le nom de Caleb reste un nom, voilà, une renommée en Israël et dans ce royaume de Juda. Mais cet homme, malgré son pédigré, était dur. Et nous dit le verset 3, il était mauvais dans ses actions. Alors, David, dans cet épisode, apprend que Nabal était en train de faire tondre ses moutons. Et vous savez, en Israël, il y a des occasions, de grandes occasions, où les gens sont invités à célébrer. Quand on avait cueilli les prémices au niveau des récoltes, on les amenait à Dieu et on faisait une célébration, une fête. Et durant cette fête, étaient aussi invités ceux qui n'avaient pas les moyens de manger, pas les moyens de cultiver et de présenter à Dieu des prémices. C'est une loi de Moïse, dans le Deutéronome, où il est dit que, au bout de 3 ans, Dieu dit, quand tu sortiras toute la dîme de tes produits, pendant cette 3e année, tu la déposeras là où tu résideras. Et alors le Lévite, qui n'a pas d'héritage avec toi, l'immigrant, l'orphelin, la veuve, qui réside avec toi, mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse. Alors cette loi avait été instaurée pour tous les 3 ans, mais on voit dans Néhémie par exemple, Néhémie 8, que Dieu, donc Esdras dit, allez manger des viandes grasses, buvez des liqueurs douces, et envoyez des parts à ceux qui n'ont rien de prêt, car ce jour est consacré à notre Dieu. Voilà que Nabal avait là l'occasion de célébrer les bénédictions de Dieu. Alors c'est important de reconnaître que tout ce que nous avons vient de Dieu, n'est-ce pas? On peut travailler, on peut échouer, on peut travailler et être béni. Et quand nous sommes bénis par notre travail, eh bien, ne perdons pas une occasion de faire profiter aussi d'autres. Alors, à cette occasion-là, l'hospitalité est exercée. Et puis, donc David, qui était en besoin, n'a pas trouvé étonnant de demander à Nabal de l'aider, de faire partager avec lui les bontés de l'Éternel. Et puis, David dit à ces jeunes gens, vous lui direz que nous avons été ceux qui ont protégé, mes hommes, ton troupeau. Donc, quelque part, il y a une partie qui revient à David. Alors, il ne le dit pas directement, mais Nabal devrait le comprendre. Il dit même, tu peux le vérifier, demande, voilà, verset 8, à tes jeunes gens, ils te le déclareront. Alors, évidemment, là, 10 jeunes gens, 10 hommes, montent voir Nabal et lui présentent la requête que David leur avait demandée. Et quelle tristesse de voir la réponse de Nabal. Alors, c'est plus qu'une réponse égoïste. C'est même une insulte vis-à-vis de David. Nabal, au verset 10, répond au serviteur, « Qui est David ?» Et on dirait qu'il ne le connaît pas. Du coup, il dit, « Qui est ce fils d'Isaïe ?» Donc, il le connaît, n'est-ce pas? En fait, c'est une réponse véritablement qui trahit le cœur de Nabal. Voilà un homme méprisant, un homme, qui manque véritablement de bon sens. Et alors, il est, lui, de la tribu de Juda. Il aurait pu se réjouir de ce que Samuel a donné l'onction à David, chez Isaïe, avec Isaïe. Donc, tout le monde savait que le futur roi, c'était David. Et il n'a pas vu David comme quelqu'un qui était oint par Dieu, donc qui a reçu la faveur de Dieu pour être roi. Il a vu en David un simple serviteur, et puis il lui fait remarquer, vous savez, il retourne de manière un peu vicieuse à cette histoire. Il y a des serviteurs qui s'enfuient de chez leur maître. Les gens qui nous font péter les câbles savent très bien, mais vous savez, appuyer là où ça fait un peu mal, Et puis nous, on est en train de bouillir, c'est un peu la réponse que David va recevoir en pleine figure. Alors Nabal va désigner David comme un moins que rien. Qui es-tu, toi, finalement? Et c'est vrai que lorsque David reçoit ce message de la part de Nabal, eh bien, il vit une injustice profonde. Quoi? Après tout ce que nous avons fait pour lui? C'est comme ça qu'il nous récompense. Hein, il y a du regret, mais il y a surtout de la colère. Évidemment, nous, on vit jamais ça. Hein. On n'est pas là avec 400 hommes à se promener dans les champs, hein, dans les collines de l'Oriol. Hein, et 200 qui gardent les bagages. Hein. David lui-même dit au verset 21, « C'est bien à tort que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. » Tu vois, quand tu fais le bien et que les autres, au lieu de le reconnaître, t'enfoncent davantage, ah, il y a des sentiments qui remontent, hein. Un peu comme le suc gastrique, vous savez, hein, un peu de Mopral, non, hein. Donc, David est en colère, mais une véritable colère. Et on pourrait tous lui dire, tu as raison, David, hein. Parce que les résultats escomptés, eh bien, ne sont pas là. Hein? Après toute sa bienveillance, on dirait que Nabal lui parle comme si David était méchant envers lui, comme s'il voulait se venger. Le problème, c'est que Nabal est odieux. Ça, à la limite, hein, c'est son problème à lui, pas le nôtre. Mais notre problème qui nous intéresse ce matin, c'est que David va devenir odieux à cause de Nabal. Au verset 22, il est écrit: que Dieu fasse ceci aux ennemis de David et qu'il ajoute encore cela si je laisse subsister jusqu'au matin même le moindre de tous ceux qui appartiennent à Nabal. Waouh! Hein? Nabal est monté d'un cran et David est monté un cran au-dessus encore. Alors, que Saül réagisse de cette manière, on le comprend. Hein? Saül est un sanguinaire. Mais David, un homme selon le cœur de Dieu, comment est-ce possible? Jacques 1, verset 20, nous dit ceci, que nous connaissons: la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Mais on pourrait dire que c'est une colère légitime, et parfois nous pourrions nous dire nous avons des colères légitimes. Voilà que il nous arrive de raisonner de la même manière que David. Mais là, c'est quand nous commençons à raisonner ainsi, nous devenons odieux. Son problème, c'est de David, c'est qu'il s'attend à recevoir le salaire du bien qu'il fait. Vous avez reçu toujours le salaire du bien que vous avez fait ? David a fait du bien à Saül. Que fait Saül ? Il le persécute. David fait du bien à Nabal et à son troupeau. Que fait Nabal ? Ben, il le méprise, il insulte. Ah, c'est quelque part une persécution. Où est-il écrit dans la Bible ? Fais du bien à ceux qui te font du bien seulement. La nouvelle version ? Non ! David est ici, pour nous, vraiment un contre-modèle. C'est curieux, hein ? Parce que nous sommes parfois aussi incohérents. Nous disons aimer Dieu, nous disons qu'il a fait grâce dans nos vies, etc. Et parfois on a, voilà, on devient fou, quelque chose nous rend fou. Le plus grand danger pour David, on pourrait dire c'est Saül. Mais en réalité, le plus grand danger pour David, ça devient, même pas Nabal, ça devient sa propre réaction. Les paroles de Nabal sont des paroles d'un insensé. Qui peut s'attendre à ce qu'un insensé dise des paroles sensées? Sinon, ils ne seront pas considérés comme insensés. Vous avez compris le sens. Ok. Verset 14, un des serviteurs de Nabal a trouvé une idée. Enfin, quelqu'un qui a un peu de sens. Il va aller dans le sens d'Abigaël, hein, pour garder le bon sens. Donc, il va voir cette femme et lui dit, écoute, il y a un problème là. Il y a un vrai problème. Il a compris que la réponse allait irriter David. Au verset 14, un des serviteurs de Nabal vint faire un rapport à Abigaïl, femme de Nabal. Et voici que David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Bonjour l'hospitalité, hein ? Le serviteur aussi a compris. Quelle erreur diplomatique ! Et puis au verset 17, vous avez remarqué, il ne dit pas « Fais ceci et fais cela et voilà ». Il lui dit seulement au verset 17 « Maintenant, toi, tâche de reconnaître et de voir ce que tu as à faire. » Car, il a compris, la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue et lui, c'est un vaurien. Impossible de lui parler. Nabal, c'est la tête dure, vous savez. Aïe, il ne veut rien entendre, ce gars. Alors, c'est Abigaël qui doit agir. Et elle agit. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend 200 pains, 2 outres de vin, verset 18, 5 moutons à prêter. Alors là, on voit que c'est quand même une célébration. On n'apprête pas tous les jours 5 moutons. Donc, il y avait quand même quelque chose qui était de l'ordre de la fête. Alors, 5 mesures de grains rôtis, 5 paquets de raisins. Alors, certains pensent, entre parenthèses, que ce grain rôti, c'était du café. Bon. Ça regarde que ceux qui aiment le café. Ok. Donc, merci. 100 paquets donc, de raisins secs et 200 figues. Donc, et 200 de figues sèches. Voilà qu'elle a ramassé ce qui avait été prêt pour la fête. Elle a dit, on va lui amener cela. On va essayer d'apaiser ce David. Mais David est en route. Et il est prêt, il est déterminé à régler ses comptes. Alors, que se passe-t-il? Encore rongé par... les insultes et le mépris de Nabal, il rencontre Abigaël sur sa route. Verset 23, lorsqu'Abigaël aperçut David, elle descendit vite de l'âne. Elle tomba, se prosternant en présence de David, la face contre terre, et puis, se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles. Écoute les paroles de ta servante. » Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce vaurien de Nabal, car il est comme son nom, il s'appelle Nabal, qui veut dire vaurien. Il y a chez lui de l'insanité, et moi, ta servante, je n'ai pas vu les jeunes gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel vivant, que tu es vivant, c'est l'Éternel qui t'a empêché d'en arriver au crime. Et d'assurer toi-même ton propre salut, que tes ennemis, que ceux qui en veulent, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal. Maintenant, que le cadeau de ta servante apporte à mon Seigneur soit distribué aux jeunes gens qui marchent à ta suite, et pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera certainement à mon Seigneur une maison stable, puisque mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, qu'on ne trouve donc jamais le mal en toi. C'est un des plus beaux passages de la Bible d'apaisement face à la colère. Oh, quel exemple! Quel modèle! En réalité, là nous avons un modèle parce qu'on voit dans l'attitude d'Abigaël beaucoup de respect et de vérité. 6 fois dans le paragraphe, elle se nomme servante. Et elle dit « Mon Seigneur » à David 14 fois. Elle commence donc à implorer David de mettre tout le blâme sur elle. Et là, je dirais qu'elle est quelque part l'image du Christ pour nous. À la croix, qu'est-ce que Jésus a dit au Père? Père, mets tout le blâme de ces vauriens sur moi. Oh, quel sacrifice! Quel cœur profond! J'ai été frappé par cette attitude. Vous savez, c'est l'attitude de l'homme spirituel qui ne cherche pas ses intérêts comme Jésus n'a pas cherché ses intérêts. David en voulait à Nabal, et moi franchement, Abigaël aurait pu penser, dire, s'il règle le compte à ce vaurien de Marie, au moins c'est réglé, moi j'y suis pour rien et je tousse l'assurance. Peut-être, je sais pas. En tout cas, elle a su même défendre Nabal, qui était là à plaindre. Elle s'offre comme Jésus s'est offert en bouc émissaire. 1 Samuel 25, 24, elle se jette à ses pieds, elle dit « à moi la faute ». C'est moi qui ai peut-être entendu, qui n'ai pas prêté garde, etc. En tout cas, elle demande à David de fléchir un peu son cœur et de l'écouter. David écoute Abigaël qui le supplie de ne pas prendre son mari au sérieux. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce vaurien, dit-elle. Il y a donc dans cette décision que Nabal a prise aucune part de ce qu'Abigaël a pu dire, n'est-ce pas? D'ailleurs, les ânes sont à proximité, chargés de provisions pour montrer sa bonne foi. Même si Nabal considère David comme un fauteur de troubles illégitime, regardez comme elle montre que David a été choisi par Dieu pour devenir roi. Car l'Éternel fera certainement de toi une maison stable, puisque mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel. Et voilà la colère de David qui s'apaise. J'aimerais retenir 5 petites instructions de ce texte pour moi et pour chacun d'entre vous. Si David est l'image du chrétien qui marche avec Dieu, qui a été choisi par Dieu et qui est conduit par Dieu, d'abord, le chrétien n'a pas toujours raison. On aimerait, hein? Ah là là, des fois j'ai entendu un mauvais usage de « si Dieu est pour nous, qui est contre nous ?» Ah, des fois j'étais choqué parce qu'il y avait des chrétiens qui étaient en bisbille avec leur entourage et ils avaient tort, un entourage non chrétien, et parce qu'ils étaient chrétiens, on dit « si Dieu est pour nous, qui est contre nous ?» Réellement, comme disent les Anglais, « are you serious ? Es-tu sérieux ?» Ah, mon anglais se limite à pas de grand chose, hein. Il ne fait aucun doute, le chrétien peut se tromper. Et oui, quand il est animé par la chair, ça arrive. Mais cette certitude d'être chrétien, et cette certitude que Dieu est avec nous, n'est pas une certitude où nous pouvons faire toutes choses en pensant que nous sommes conformes à la volonté de Dieu. 1 Corinthiens 16, verset 13, l'apôtre Paul dit à ces Corinthiens qui sont complètement à côté de la plaque, hein, « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » Ah, on peut être sur un mauvais chemin. Tout à l'heure, le psaume qui a été lu, 25, hein, « Instruis-moi selon tes voies, Seigneur. » Eh oui, on peut être des fois à côté. Éphésiens 5, 15, « Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. » Hébreux 12, 15, « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume... » Alors ici, nous avons la version français courant. Hein. Ici, nous avons la version français courant. Il a couru tellement vite. Le... Donc, « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons. » Voilà, ça va venir. C'est bon? Ok, voilà. Merci. Voilà, merci quand même à Jacques qui se débrouille sans le PowerPoint. Voilà, merci beaucoup. Alors, racine d'amertume, c'est marqué donc aucune plante nuisible, vénéneuse, qui pousse et qui empoisonne beaucoup de gens. Ah là là, on peut être chrétien et avoir des plantes qui poussent et qui nous empoisonnent et qui empoisonnent la vie de ceux qui sont autour de nous. Hein? N'est-ce pas? Eh oui, sauvé par la grâce. Amen, 3 fois Amen, oui, mais la grâce s'accompagne de fruits. Une attitude qui honore le Seigneur, bien sûr. Bien-aimé, dira Pierre, je vous exhorte en tant qu'étranger et voyageur à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Au milieu des païens, ayez une conduite, une bonne conduite, afin que là, ils vous calomnient, comme faisant le mal, ils voient vos bonnes œuvres et glorifient Dieu. Le jour de sa visite. Notre problème, c'est que nous ne sommes pas toujours prêts à aimer et servir quand nous n'avons pas de retour. Ou alors nous avons des conditions. Hein. Nos réactions et nos paroles peuvent produire du bon, mais aussi de la souffrance. Nous oublions souvent que notre récompense nous sera donnée là-haut. Nous, on attend un chèque ici-bas. Attend toujours. Hein. Ouais, là-haut dans les cieux, nous aurons ce que Dieu nous a promis si nous agissons comme Dieu nous le demande. La première des choses, c'est que ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous avons toujours raison. La deuxième des choses, alors, c'était un petit détail qui est donné au début et à la fin de ce chapitre 25. Au verset 1, il est écrit « Samuel mourut ». Et au verset 44, il est écrit « Saül avait donné sa fille Michal, donc à quelqu'un d'autre, qui s'appelle Palti. » En réalité, ce qu'on peut dire, il est clair qu'il y a des périodes dans nos vies où nous devenons plus fragiles. Quand nous perdons un être très cher, quand quelque chose se bouscule, je ne sais pas pour vous, mais ça, il y a des choses qui remontent du passé. Il n'y a qu'à voir. Bon, j'ai fait des enterrements. Hein. J'ai été parfois surpris des familles qui s'entendaient très bien. Et tout de suite après l'enterrement, des tensions. Des choses remontent du passé. En fait, lorsque quelqu'un se sent terriblement seul et démuni, voilà que les mauvaises pensées et l'injustice du passé prennent le dessus et dominent. Et c'est ce qui arrive à David, je crois. Pour ça qu'ici, il a plus été maître de lui-même. Terriblement seul, Samuel, à qui il pouvait se confier, n'est plus là. Vers qui va-t-il se tourner? Qui va-t-il lui donner de bons conseils? Les grandes épreuves dans nos vies révèlent et réveillent des blessures enfouies, des frustrations, peut-être depuis longtemps, très longtemps, des injustices subies, des peurs qui réveillent cela. Et j'ai remarqué cela, donc, comme je dis, particulièrement dans les crises graves. Ça peut être la perte de quelqu'un, la perte d'un emploi, ça peut être tellement de choses. Fixons-nous des limites à ne pas franchir. Je crois que ça, c'est important de dire. Je suis dans une situation de fragilité. Je ne dois pas aller jusqu'à être, je veux dire, à me découvrir et être plus fragile encore. La colère et la vengeance, mon frère, ma sœur, n'ont pas de fin. Pas de fin. Et quand bien même on aurait vengeance, ça ne finit pas. Et je crois, à mon avis, David a écrit, peut-être, ce psaume 37, quand il a vécu cette période avec Nabal. Que dit-il? De David, le psaume 37, verset 1. Ne t'irrite pas contre les Nabal. Un Nabal reste un Nabal. Hein? N'envie pas ceux qui commettent l'iniquité. Et au verset 7, il ajoute, garde le silence devant l'Éternel et attends-toi à lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui accomplit de mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. C'est un appel ici à redoubler les promesses de Dieu, de se remémorer les promesses de Dieu dans nos vies. Comme David, à qui Abigail rappelle que sans aucun doute il sera le prochain roi d'Israël. Merci. Si David, donc, est l'image du chrétien, le chrétien n'a pas toujours raison dans tout ce qu'il fait. Il y a aussi des périodes de vie où nous sommes plus fragiles que d'autres. La troisième des choses aussi, il n'est pas facile de traiter les insensés. Ah. Il est impossible pour un roi d'agir, pour un roi d'agir bêtement. Et on voit dans l'histoire d'Israël, hein. Un commentateur disait ceci, c'est sans doute la raison pour laquelle Salomon a prié pour avoir la sagesse. Il s'est rendu compte que l'homme est faillible et limité. Il est aussi possible que nous jugions à tort quelqu'un de stupide, alors qu'il ne l'est pas. Proverbe 9, 8 nous dit, ne reprends pas le moqueur, de peur qu'il ne te haïsse. Ah, c'est compliqué de reprendre un insensé, hein? Alors, Proverbe 26, alors lui, il est intéressant parce que ces deux versets ont mis en porte-à-faux quelques rabbins qui ont dit « Le livre des Proverbes n'est pas inspiré par Dieu ». Alors, c'est contradictoire. « Ne réponds pas à l'insensé selon sa stupidité, de peur que tu ne lui ressembles toi-même ». Et au verset 5, « Réponds à l'insensé selon sa stupidité, de peur qu'il ne devienne sage à ses propres yeux ». En fait, en gros, c'est impossible de maîtriser un insensé. Que tu lui dises ceci, il va trouver un contre-pied, que tu dises autre chose, etc. En fait, ne te mets pas en tête de vouloir régler le cœur d'un insensé. Un jour, nous étions... Je ne sais pas si ça va s'enregistrer, ça. Un jour, nous étions... C'est entre nous, hein. Un jour, nous étions avec des serviteurs de Dieu. Et la question était, comment est-ce qu'on gère les insensés? Alors, il y avait des réponses... Il y avait ceux qui étaient de France, ceux qui disaient non, etc. Et puis un frère a dit, moi, je prie pour eux. Ah bon? Et on a dit, oh là là, quel modèle! Et dans ma prière, je dis, Seigneur, bénis cet imbécile. Eh oui, malgré notre bonne volonté, il y a des gens qu'on ne peut pas changer. La seule personne insensée que tu peux changer, la seule personne insensée que je peux changer, c'est moi et toi pour toi. Et le seul qui peut changer, c'est Dieu. Alors n'essaie pas d'échanger un insensé. Hein? Le quatrième point, et l'avant-dernier, c'est la grâce de Dieu qui a gardé David. Et je crois que parfois, quand on est dans une période où voilà, on devient fou, eh bien c'est la grâce de Dieu qui nous garde. Ici, la grâce de Dieu s'appelle Abigaïl. C'est elle qui a empêché par son acte que David commette l'irréparable, qui aurait eu des conséquences, non pas sur son salut, non pas sur sa royauté, c'était donné par Dieu, mais qui aurait eu des conséquences dans son futur règne. On lui aurait reproché cela, certainement. En réalité, c'est Dieu qui a gardé David de la folie de ce projet. C'est aussi ça la grâce de Dieu, mon frère, ma sœur. Vous savez, on peut être reconnaissant pour la grâce de Dieu d'être sauvé. On devrait être reconnaissant tous les jours pour Dieu, cette grâce qui ne nous laisse pas à nous-mêmes. Parce qu'on serait capable, parfois, pas du meilleur. Hein? Dieu peut se servir de sa parole, des autres. Il peut se servir de notre conjoint et même de nos enfants. Et même parfois des païens pour nous remettre un peu dans le bon sens. Quelqu'un a dit, trop de maris n'écoutent pas la sagesse que Dieu peut leur donner à travers leurs femmes et même à travers leurs enfants. Voilà, vous me remercierez après, mes sœurs, pour ça. Hein. Et oui, ici, Dieu s'est servi d'Abigaïl. Et ses paroles ont correspondu à tout ce que David savait sur Dieu. Ne va pas au-delà d'une certaine limite, David. Et David dit à Abigaïl, au verset 32, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour d'en arriver à ce crime. » À ce crime. Il est bon de reconnaître ses torts et certainement David a demandé pardon à Dieu. Alors, Proverbe 5, verset 6 et 7, à 7, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Reconnais-le dans toutes tes voies, c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et écarte-toi du mal. Dernier point, Abigaïl nous apprend l'efficacité de la douceur et de la patience. Ah, c'est pas un exercice facile, hein? Sinon on n'appellerait pas la patience patience, hein? David prit des mains d'Abigaïl, verset 35, tout ce qu'elle lui avait apporté, et dit « Monte en paix dans ta maison, vois, j'ai écouté ta voix, et je t'ai favorablement accueilli. » Elle nous laisse ici l'exemple d'une femme qui va reprendre avec douceur quelqu'un qui peut être repris. Voilà l'exemple d'un homme et d'une femme spirituelle pour nous. Galates 6 nous dit ceci, l'apôtre Paul, « Frère, ça inclut aussi les sœurs. Hein. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que toi aussi, tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il s'illusionne lui-même. Que chacun examine son œuvre propre. Et alors, il trouvera en lui seul, et non dans les autres, le sujet de se glorifier, car chacun portera sa propre charge. » Alors l'histoire, je vous raconte la fin, hein, mais je spoile pas l'histoire, vous la lirez à la maison. L'histoire, c'est que 10 jours après, le lendemain, Abigaïl raconte cette histoire à Nabal, qui le prend très mal, il fait une crise cardiaque, et 10 jours après, voilà. L'histoire, c'est que le sort de l'insensé, c'est qu'il court à sa propre perte, s'il n'a pas une oreille tendue vers Dieu, s'il ne tend pas son cœur vers Dieu. Parfois, le Seigneur agit rapidement, 10 jours pour Nabal, parfois plus longtemps. Job dira que l'insensé s'enracine dans la vie. Nabal, en fait, est ce qu'il y a de pire chez les hommes. Il est injuste, arrogant, autosuffisant. Il ne reconnaît pas que sa richesse vient de Dieu. Il juge les hommes selon leur apparence et leur popularité. Le malheur de Nabal, sa plus grande stupidité, c'est qu'il est inconscient au point qu'il est proche de la mort et il ne se soucie pas de Dieu. Alors il y a une autre parenthèse que j'aimerais faire ici. C'est qu'à la fin, il y a un happy end. David épouse Abigail. Ils eurent beaucoup d'enfants. Non, ils eurent un ou deux, je crois. Bon. Tout ça pour dire que, jeune homme, toi qui cherches peut-être à te marier, je t'assure, il y a la parfaite femme. La femme tellement idéale que tous tes copains diront « Waouh !» en la voyant. Jeune femme, ou jeune fille, je t'assure, il y a le parfait mari, le parfait homme. L'homme, lorsque toutes tes copines le verront, elles te diront « Waouh !» Mais je doute sincèrement que la parfaite femme ou le parfait homme soit l'homme de ta vie. En fait, il y a surtout l'homme ou la femme unique selon Dieu. La grâce, nous dit Proverbe 30, verset 31, est trompeuse. Mais c'est la crainte de l'Éternel qui compte. Alors là, c'est bien parce qu'Abigail, elle est super et elle est super spirituelle aussi. Hein? Mais ça veut dire que quand on cherche l'amour de sa vie, la beauté, qui peut être un critère, ne devienne pas le premier critère. Il faut regarder la sagesse d'une femme qui peut, selon le Seigneur, aussi nous apaiser. Merci Seigneur pour les femmes qu'il nous donne. Oui. Je comprends. Quand je dis les, c'est la multitude de ses sœurs, etc. Merci, merci Bernard. En fait, le problème de Nabal, qui n'avait qu'une femme, je pense, son malheur, c'était qu'il n'a pas reconnu qu'Abigail avait le sens selon Dieu, la sagesse selon Dieu. En d'autres termes, la vie de l'esprit en elle. Combien il valait mieux que cet imbécile, a écrit quelqu'un, soit mort par la main de Dieu que par la main de David. Quand Dieu intervient, il est trop tard. Quand la limite fixée est franchie, il n'y a plus possibilité de faire marche arrière. En réalité, la vraie récompense dans cette histoire, c'est d'être à Christ. La vraie sagesse. C'est ça qui importe. Le vrai roi, c'est Christ. Le véritable avenir pour nous, eh bien, nous le recevons de Christ. Alors, on a lu beaucoup de promesses, et c'est ma conclusion finale. Vous avez noté tous les versets qui ont été dits, qui ont été lus. Mets ton espérance en Dieu. Dieu est un Dieu de l'espérance. Quand il y a des moments de crise, il est bon de se rappeler ces versets. Un jour, il y a un verset qui m'a fait beaucoup de bien, c'est celui d'Hébreux 6, verset 10, qui dit ceci, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre action. » Peut-être que tu as été injustement payé, injustement traité, injustement accueilli, alors que tu as fait de bonnes choses. Tu as peut-être avalé, ça risque un peu de remonter. Mais la réalité, c'est que Dieu ne l'a pas oublié. Et ça, je crois que ça doit être notre plus grand réconfort. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre action, ni l'amour que vous avez montré pour son nom. Que le Seigneur, mon frère, ma sœur, nous bénisse et nous garde dans sa sagesse. Amen.